VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 31 janvier 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydou Dia et Jean-Roger Billon pour commencer les titres.
Le président Donald Trump limoge le ministre ou la ministre par intérim de la justice pour refus de défendre son décret limitant l'immigration.
Début aujourd'hui à Abidjan du procès dit du Novotel, 10 personnes dont 8 militaires sont en jugement.
En Gambie, des armes saisies dans un domicile privé de Yahya Diame. Arrestation de membres de la garde privée de Madame Diame qui tentait de revenir au pays.
À Addis Abeba, réintégration hier du Maroc au sein de l'Union africaine et élection du Tchadien Moussa Faki Mahamat à la présidence de la commission de l'UE.
Réunion en urgence aujourd'hui du Conseil de sécurité de l'ONU sur un tir de missile de moyenne portée par l'Iran.
Et ne manque pas notre journal de la CAN au Gabon ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Côte d'Ivoire, 10 personnes, dont 8 militaires, comparaissent à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises d'Abidjan à l'occasion du procès dit du Novotel. Le directeur de l'hôtel Novotel d'Abidjan, Stéphane France Diripel, Yves Lamblin, directeur général de CIFCA, le plus grand groupe agro-industriel ivoirien, et figure du patronat local, son assistant béninois, Raoul Adeossi, et le malaisien Chelia Pandian, directeur général de la SANIA, filiale de CIFCA, avaient été enlevé par un commando militaire le 4 avril 2011 dans Abidjan, en pleine crise post-électorale. 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Dogbo-Blé, qui commandait la garde républicaine, sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Le procès se tiendra au palais de justice de Yopougon, un grand quartier d'Abidjan, et va durer environ 2 ou 3 semaines.
La force déployée en Gambie par la CEDEAO a saisi des armes et munitions découvertes dans un domicile privé de l'ex-président Yahya Diame. C'est ce qu'a annoncé hier à la presse son chef, le général François Ndiaye. Il a par ailleurs fait état de l'arrestation au Sénégal voisin du chef d'une unité d'élite de l'armée gambienne, le général Bora Colli, sans donner de détails. Le général François Ndiaye a aussi évoqué les arrestations de 4 membres de la garde personnelle de Madame Diame, qu'il avait accompagné en exil et tenté de revenir en Gambie.
Les chefs d'État de l'Union africaine ont décidé lundi de réintégrer le Maroc, qui avait quitté l'organisation continentale en 1984 pour marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental. Les précisions, Tatiana Mosso.
39 chefs d'État sur 54 se sont prononcés pour le retour du royaume chérifien au sein de l'Union africaine. Le Maroc avait quitté l'UA en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental, que Rabat considère comme une partie intégrale de son territoire. Mais le Maroc a annoncé en juillet sa volonté de réintégrer l'organisation sans poser de préalable. Le roi Mohamed VI, présent à Addis Abeba, a multiplié ces derniers mois les visites sur le continent pour rallier les soutiens. La demande du Maroc a toutefois suscité l'opposition des soutiens de la République arabe sahraoui démocratique. 12 pays, dont plusieurs poids lourds comme le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Kenya ou l'Angola, ont tenté de contrecarrer la réadmission sur des bases juridiques, estimant que le Maroc occupe une partie du territoire d'un État membre en référence au Sahara occidental. L'autre fait marquant de ce 28e sommet, c'est que les chefs d'État ont nommé le Tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine.
Le président tchadien a surpris sur la Libye. Le président Idriss Déby Itno apporte un soutien au maréchal Khalifa Haftar, rival du chef du gouvernement d'Union nationale reconnu par la communauté internationale. Précision, Eric Manirakiza.
Idriss Déby Itno présente Khalifa Haftar comme une solution pour le pays. Le président tchadien affirme qu'il a reçu deux fois N'Djamena et assure que le maréchal controversé n'a pas d'ambition politique personnelle. Son rôle, dit-il, est d'aider à un rapprochement pour le retour à la stabilité. Rival du chef du gouvernement d'Union nationale, Faez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, le maréchal Haftar est très actif dans la lutte contre les djihadistes dans l'est de la Libye. Début janvier, N'Djamena a fermé sa frontière terrestre avec le voisin libyen en raison d'une menace d'infiltration terroriste. Les effectifs militaires tchadiens ont été doublés près de cette frontière. M. Déby estime que la menace Daesh persiste. Selon lui, l'intervention des forces spéciales à Sirte n'a fait que créer un nouveau regroupement des terroristes dans la région de Koufra, au sud, à 200 km du Tchad.
La Tunisie a mis en échec 113 tentatives d'immigration clandestine en 2016. La plupart de ces migrants ont transité par la Libye voisine. Arzouma Compaoré.
Lofti Brahim, chef de la garde nationale, a dit devant le Parlement tunisien que l'an dernier, il y a eu 113 tentatives d'immigration clandestine et 1105 personnes ont été arrêtées. Il n'a pas donné de détails sur le sort des migrants interpellés, mais ils sont le plus souvent expulsés. Selon l'ONU, plus de 5000 personnes ont trouvé la mort l'an dernier en tentant de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe à partir de la Libye où des réseaux de passeurs profitent du chaos politique et sécuritaire. Hier, lundi, les gardes-côtes libyens ont intercepté quelques 700 migrants qui tentaient cette traversée périlleuse. En moins d'un mois, l'Italie a vu débarquer sur ses côtes méridionales plus de 4000 migrants, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a limogé hier la ministre par intérim de la Justice, une ancienne de l'administration Obama. Sally Yates avait ordonné au procureur de ne pas défendre le décret de M. Trump limitant l'immigration. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, Mme Yates a trahi le département de la Justice en refusant d'appliquer un décret destiné à protéger les citoyens des États-Unis. Le président Trump a nommé à sa place Dana Bente dans l'attente de la confirmation par le Sénat de la nomination du sénateur Jeff Sessions.
Dans son communiqué, la Maison-Blanche a qualifié Mme Yates de faible sur les frontières et très faible sur l'immigration illégale. Sally Yates, ancien numéro 2 du ministère sous l'administration Obama, avait mis en doute dans une note interne la légalité et la moralité de ce décret qui interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane et à tous les réfugiés.
Par ailleurs, le président Trump a remplacé hier le chef intérimaire du service de l'immigration et des douanes, Daniel Ragsdale, un ancien de l'administration Obama. Il est remplacé par Thomas Homan. La nouvelle a été annoncée par le secrétaire à la sécurité intérieure, John Kelly.
La nomination de Rex Tillerson, ancien PDG d'ExxonMobil, au poste de secrétaire d'État américain a franchi un nouveau cap lundi après un vote de procédure positif au Sénat. Le vote de confirmation aura lieu dans les prochains jours. Les démocrates, qui ont presque tous voté non, disent notamment reprocher à l'ancien patron du géant pétrolier une proximité passée avec la Russie de Vladimir Poutine.
La fusillade qui a fait 6 morts hier soir, ou plutôt dimanche soir, dans une mosquée de Québec au Canada, un seul des deux hommes interpellés est considéré comme suspect d'après la police. Morgane Guériec.
Le jeune homme, fin de vingtaine, début trentaine, a appelé le numéro d'urgence dimanche, 15 minutes après la fusillade. Selon la police, il a signalé le lieu où il se trouvait et s'est mis à la disposition des autorités. Le premier suspect avait déjà été arrêté aux abords de la mosquée. Ils sont tous les deux placés en garde à vue. D'après les médias locaux, l'un se nommerait Alexandre Bissonnette et l'autre, Mohamed Kadir, serait d'origine marocaine. Mais la police n'a pas voulu confirmer les identités, se bornant à mentionner leur nationalité canadienne. Pour le moment, rien ne nous porte à croire qu'il y aurait d'autres suspects reliés à l'événement, précise la police. La fusillade a fait 6 morts et 5 blessés sont dans un état critique. Les deux hommes ont tiré sur des fidèles à la fin de la prière. Et c'est la première fois qu'une attaque de ce genre vise une mosquée au Canada. Pour le Premier ministre Justin Trudeau, il s'agit d'un acte terroriste dirigé contre des musulmans. Le même lieu de culte, situé dans un quartier résidentiel, avait déjà fait l'objet d'un acte à caractère haineux, avec une tête de porc déposée devant ses portes. Plusieurs autres mosquées ont été visées par des dégradations au cours des deux dernières années.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce mardi pour discuter d'un tir de missile de moyenne portée par l'Iran. C'est ce qu'ont déclaré aujourd'hui des diplomates à New York.
Et tout de suite sur VO Afrique, le journal de la CAN, présenté par Nicolas Pinault.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. J-1 avant la première demi-finale à Libreville demain entre le Burkina Faso et l'Égypte. Un duel a priori déséquilibré entre les étalons finalistes de l'édition 2013 et des pharaons septuples vainqueurs de la CAN. Mais les Burkinabés y croient et continuent de se préparer sereinement à Libreville où l'on retrouve l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
Les étalons se sont entraînés lundi à huis clos au stade de l'INGS de Libreville. Une décision du coach Paulo Duarte qui veut assurer à ses poulains une concentration maximale avant la demi-finale contre l'Égypte. Dimanche déjà, consigne avait été donnée aux fans burkinabés de ne pas se rendre à l'entraînement. Pour les étalons, la mission au Gabon est loin d'être accomplie et il faut mobiliser toutes les ressources mentales et physiques pour y parvenir. L'Égypte est une adversaire de taille en demi-finale et ils en sont conscients. Mais les Burkinabés n'ont pas oublié leur élimination par les pharaons en 1998 sur leur propre pelouse à ce même stade de la compétition. Ils comptent donc bien prendre leur revanche cette fois-ci, nous a dit le président de la Fédération Burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré. Quelques atouts des étalons ici au Gabon. Ils ont accumulé un précieux capital de sympathie auprès des Gabonais pour avoir été la première équipe nationale à arriver sur place pour la CAN 2017. Par ailleurs, leur coach Paulo Duarte a gardé de bonnes relations ici et a entraîné les Panthères gabonaises pendant 2 ans. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Et jeudi, place à la demi-finale entre le Cameroun et le Ghana. Léger avantage aux Black Stars qui joueront leur 6e demi-finale d'affilée, tandis que les Lions indomptables n'avaient pas atteint ce niveau depuis 2008. Le Cameroun qui avance dans cette compétition sans crise, comme nous l'explique Jules Valentin Ngwe dans son coup de sifflet.
La grosse sensation de ces quarts de finale est venue de Franceville, où dans un combat de fauves entre les Lions de la Teranga et ceux de l'Afrique centrale, le favori n'était pas celui qu'on connaissait. La surprise du résultat réside moins dans la qualification du Cameroun que dans l'élimination du Sénégal, manifestement mieux armé avant la rencontre. En toute humilité, le sélectionneur belge de l'équipe camerounaise a intégré cette donne et défini sa stratégie. Réussir à faire douter dans un premier temps une brillante formation sénégalaise, habituée jusque-là à mener au score et à breaker très tôt, et par la suite profiter des espaces libérés favorable à son expression offensive. Pour enrayer la mécanique, Bross a choisi d'aligner en première mi-temps un commando composé de joueurs jeunes et vifs, dont certains n'étaient même pas connus. Constatant la défaillance de son élément fétiche, Toko Ekambi, dans son duel contre Gassama sur le couloir gauche, le Belge n'a pas hésité à le sortir et intégrer dans l'axe le polyvalent Jacques Zoua, très à l'aise dans le jeu au sol, où les immenses défenseurs sénégalais sont en difficulté. Dès lors, Moukandjo et Sogo ont eu un nouveau partenaire pour négocier les attaques placées, forçant la ligne défensive sénégalaise à se disperser. Deux leçons sont à retenir. D'abord, Hugo Bross, qui est le grand vainqueur du match, conforte dans un pays où cela n'est pas courant sa place de sélectionneur national, libre de ses choix. Ensuite, les jeunes pousses camerounaises qui ont terrassé l'ogre sénégalais, maximisant leurs qualités spécifiques, exultent le label Lions indomptables, c'est-à-dire le statut indécrottable de favori historique, entendez prétendant permanent au sacre, qui colle à leur peau dans les compétitions africaines. À demain.
C'est la fin de ce journal de la CAN. Prochain point sur ce tournoi ce soir sur les ondes de VOA Afrique. En attendant, on peut en parler sur la page Facebook de VOA et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons par la Minute Éco d'Ilidico.
Au Sénégal, une crise de confiance se profile chez Sonatel, leader de la téléphonie mobile, avec 56% des parts de marché. Mais cette situation cache des désaccords entre l'actionnaire principal, Orange, détenteur de 42% du capital, et les partenaires sénégalais. Nombreuses sont les rancœurs vis-à-vis d'Orange. Abdulaziz Mbaye, actuel conseiller du président Macky Sall et ancien patron de la Sonatel, s'est exprimé de la sorte. Orange considère la Sonatel comme sa filiale et nous ne l'acceptons pas. Au Maroc, la société britannique SDX Energy vient de racheter des actifs de Circle Oil. SDX acquiert ainsi 75% des concessions de Sebou et de Lala Mimouna dans le bassin du Garbe au Maroc. La compagnie a également racheté 40% des actifs de Circle Oil en Égypte, détenant ainsi 50% des parts. Le montant global des deux opérations s'élève à 30 millions de dollars. Au total, la capacité de production dans les deux pays augmentera de 247% et ses réserves nettes de 64%. Avec la CAN qui en est au stade des demi-finales, l'heure est au bilan économique au Gabon. Le pays cherche actuellement à diversifier ses ressources pour sortir de sa dépendance au pétrole afin de rejoindre la liste des pays émergents d'ici 2025. Au niveau des infrastructures, l'organisation de la CAN 2017 a permis au Gabon d'améliorer l'accès à l'eau, à l'électricité, la réfection de l'aéroport d'Oyem et la construction des routes d'Oyem, le développement de l'axe routier Tchengue-Port-Gentil et le déploiement de 600 km de fibres optiques selon la présidence.
En République démocratique du Congo, toujours pas de sortie de crise. La conférence épiscopale a parrainé un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Il y a eu un accord sur la composition d'un futur gouvernement qui se fait toujours attendre. Et puis, Étienne Tshisekedi est parti à Bruxelles pour des soins médicaux. Idriss Fall a recueilli la réaction de Christine Botefa-Boko, vice-présidente de la coalition des Congolais pour la transition.
Pour sortir de cette crise, nous comptons organiser les états généraux congolais qui seront composés d'une constituante et d'un gouvernement constitutionnel de transition qui pourra exercer pendant 2 ans jusqu'aux futures élections. Parce que là, franchement, le pays est dans un état chaotique et le plan B de la CENCO, c'est d'envisager une mise sous tutelle de la RDC. Nous ne sommes pas d'accord avec ce projet. Ça fait 56 ans que le Congo est indépendant. Nous n'allons pas retourner en arrière. Nous n'allons pas régresser en mettant le pays sous tutelle.
Mais un état général, mais avec qui? Parce que la majorité et l'opposition...
Avec toutes les forces vives de la RDC, à l'intérieur du pays et à l'extérieur, avec les avocats, les ouvriers, les travailleurs, les associations, la société civile, réunir tout ce monde pour que nous puissions faire les états généraux très bientôt.
Mais vous les tiendrez ces états généraux où alors?
Dans un premier temps, nous allons passer avec ceux de la diaspora à Paris et par la suite, nous irons sur place à Kinshasa.
Mais il y a déjà eu des conférences nationales, il y a eu des réunions de sortie de crise à Pretoria, un peu partout. Est-ce que ce ne serait pas une autre réunion de plus?
Non, nous voulons vraiment faire une réunion intercongolaise parce que jusqu'à présent, c'était des réunions qui se faisaient sous l'égide des étrangers et sous l'égide justement des dirigeants qui sont au régime, qui sont pour nous des personnes issues des mouvements comme la FDL, RCD Goma, CNDP, M23 et le PPRD, bien sûr, qui est un régime d'occupation.
Vous parlez des anciens rebelles, mais à ma connaissance, l'UDPS de Ken Tshisekedi n'a jamais été un mouvement rebelle.
Et bien sûr, non, l'UDPS n'a pas été un mouvement de rebelles, mais l'UDPS a critiqué, a fustigé ce régime depuis longtemps. Et maintenant, nous sommes étonnés que l'UDPS s'assoit à la table des négociations avec les occupants. Pourquoi ont-ils demandé le carton rouge, tout ce qu'ils ont dit, et maintenant, changement de situation, ils négocient avec ce régime criminel. Ils ne sont pas d'accord avec cette prise de position.
Christine Botefa-Boko, vice-présidente de la coalition des Congolais pour la transition. Le Maroc a réintégré hier l'Union africaine au cours du 28e sommet à Addis Abeba des chefs d'État africains. Le royaume chérifien avait quitté l'organisation en 1984 pour marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Dakar au Sénégal un spécialiste de l'Union africaine, Ibrahim Makan.
Le Maroc a besoin de l'Union africaine. Pour vous dire vrai, je pense que le Maroc n'aurait jamais dû quitter l'Union africaine. Parce que l'avenir du Maroc, l'avenir de tout le nord de l'Afrique, est lié à l'avenir de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, le Maroc est un pays qui a fait des progrès économiques. Et le Maroc a besoin du grand marché de l'Afrique subsaharienne pour étendre ses tentacules économiques, mais aussi pour exister politiquement. Si vous voyez ce que l'Afrique vaut aujourd'hui en termes de population, en termes de possibilités économiques, on réalise pourquoi le Maroc, aujourd'hui, malgré la décision prise il y a 30 ans, a décidé de faire un comeback. Et je pense que le pays va retrouver naturellement sa famille.
À l'époque, le Maroc avait quitté à cause du soutien de l'OIUA au Sahara occidental, mais cette question n'est pas levée.
Paradoxalement, le Maroc a quitté l'OIUA d'alors pour des raisons liées à la reconnaissance de la RASD. Aujourd'hui, c'est le Maroc qui reconnaît, ne serait-ce que tacitement, la République arabe sahraoui démocratique par la ratification de l'acte constitutif de l'Union africaine. Le Maroc accepte la République sahraoui est un État africain, est un État indépendant, est un État souverain, et que cette souveraineté, cette indépendance doit être respectée par le Maroc. C'est ça le paradoxe de ce retour du Maroc, parce que finalement, à y regarder de plus près, il y a eu 30 années de perdu pour absolument rien, puisque ce qu'il a refusé il y a 30 ans, c'est ce qu'il accepte aujourd'hui, même dans des conditions plus ou moins difficiles, parce que l'occupation maintenant d'une partie du Sahara occidental qui constitue le territoire de la République arabe sahraoui devient quelque chose d'illégal dans le cadre juridique africain. Et c'est ça qui est un paradoxe pour le Maroc.
Et vous pensez qu'il sera facile ou possible de lever définitivement ce problème ?
Il va falloir trouver une solution à la crise du Sahara occidental. On l'a essayé dans le cadre des Nations Unies. On n'a pas pu. On a pensé qu'en allant à la Cour internationale de justice, on aurait pu trouver au moins des éléments pour arriver à une solution. La Cour internationale avait préconisé, je n'ose pas dire que le Maroc s'y oppose fermement, mais le Maroc ne fait pas grand-chose pour assez recueillir l'avis des Sahraouis sur l'indépendance ou non de leur territoire. Mais maintenant que le Maroc a réintégré la famille africaine, il va falloir que l'on cherche des solutions dans le cadre africain, pas juridique, mais une solution politique à l'africaine, comme on dit dans les couloirs de l'Union africaine, mais il faudra trouver une solution.
Joint à Dakar, Ibrahim Akan. Le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Moussa Faki Mahamat, a été élu à la présidence de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba lors du 28e sommet de l'organisation. Il succède à la sud-africaine Dlamini Zuma. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint le professeur Reoutag Ilro Ngaodande de l'Université de N'Djamena.
Moussa Faki Mahamat, c'est la génération des Tchadiens qui avait fait des bonnes écoles d'abord à Brazzaville pour préparer son DUA en droit. Et dès qu'il est rentré au pays, donc il est versé déjà dans la vie politique. Il a commencé par étudier les dossiers au niveau de la présidence. Il a servi déjà dans le cabinet de chef de l'État. Et donc ça lui a permis déjà de mieux cerner les dossiers, non seulement tchadiens, africains, au niveau mondial. Et cela lui a propulsé à des hautes fonctions jusqu'à ce qu'il puisse puisse arriver au niveau du ministère des Affaires étrangères où il est resté maintenant 9 ans. Et il a eu aussi cet avantage de temps en temps être délégué par le chef de l'État, de le remplacer même pour assister à de grands forums. Et c'est ces atouts-là qui ont milité en sa faveur.
Est-ce que c'est un bon choix pour l'Union africaine ?
Oui, dans la mesure où ce n'est pas seulement Moussa Faki qu'on voit, mais c'est aussi le Tchad. Le rôle que le Tchad a joué pendant ces derniers temps, c'était par exemple sur la crise qui a secoué les pays limitrophes du Tchad avec les Boko Haram au Mali, en Centrafrique, au Nigeria, avec tout cela, le Tchad est au devant de la scène.
Quant à la présidence de l'Union africaine, elle est occupée donc à partir de maintenant par Alpha Condé. Qu'y aurait-il à dire dans ce duo Guinée-Tchad ?
48 heures avant que aujourd'hui les résultats ne tombent, le président guinéen a rencontré le chef de l'État Déby. Donc il s'est mis déjà à ses côtés pour avoir toutes les informations possibles, surtout ce qui concerne les points chauds de l'Afrique, que ce soit au niveau du Congo RDC, au niveau du Gabon, au niveau de la Libye. Et donc je crois qu'il n'est pas un novice. C'est quelqu'un qui, à l'écoute de l'ancien président de l'Union africaine, qui lui a donné toutes les informations possibles pour lui permettre déjà de continuer la lutte.
Au programme de l'Union africaine, la réforme, qu'est-ce qui se dit dans les milieux intellectuels sur cette question ?
Bon, le monde évolue, l'Afrique aussi doit évoluer si aujourd'hui on veut être au top niveau avec les autres continents. Donc la réforme, c'est aussi bien de toiletter certains textes pour les adapter aux réalités de l'heure. Les textes tels que conçus il y a cela 10 ans, 20 ans sont obsolètes.
Le docteur Reoutag Ilro Ngaodande joint à N'Djamena. Poursuite des réactions au décret anti-immigration signé vendredi dernier par le président Trump, au Canada, des start-up ont demandé au gouvernement d'accorder des visas spéciaux aux victimes de ce décret. Jean-Philippe Brunet, avocat spécialisé sur les questions de l'immigration à Montréal.
Donc, faisant suite à l'annonce du gouvernement Trump la semaine dernière et l'executive order, donc les citoyens des 7 pays identifiés, qui soient donc uniquement citoyens de ces pays ou encore double nationaux, rencontrent certaines inquiétudes et même des difficultés à entrer aux États-Unis de façon plus particulière de notre côté. Après un week-end quand même très, très chaud, via lequel plusieurs de nos clients ont communiqué avec nous, il y a plusieurs échanges dans le domaine des avocats et des avocates en immigration. On se retrouve dans des situations comme, par exemple, un citoyen donc de l'un des 7 pays qui devait se rendre à un board aux États-Unis cette semaine, où finalement la décision a été prise de ne pas y aller, ne sachant pas exactement comment les services d'immigration allaient se comporter lors de sa demande d'admission aux États-Unis.
Et on dénote aussi de l'inquiétude d'autres communautés de pays qui ne font pas partie de la liste.
Oui, effectivement, puisque l'executive order a été identifié par les médias américains comme étant un, et je cite, leur grand titre, un « Muslim ban ». C'est certain que certains citoyens de d'autres pays, donc non identifiés à cette liste, ont certaines inquiétudes quant à des voyages privés aux États-Unis. À titre d'exemple, un client, nous, de nationalité pakistanaise, qui devait se rendre aux États-Unis cette semaine. Bon, après quelques échanges ce week-end, a décidé de tout simplement annuler son voyage, n'étant pas certain que ce dernier n'allait pas rencontrer de difficultés lors de son admission, puisqu'il faut se rappeler que bien que l'executive order lui-même, en termes de mots, est somme toute assez clair, l'applicabilité et la définition de comment ça va être appliqué, bon, disons qu'il y a plusieurs points d'interrogation à l'heure actuelle. Et c'est le problème auquel nous faisons face à l'heure actuelle. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, le but, c'est de comprendre ce qui a été fait. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas 100% clair.
Par contre, votre premier ministre canadien, a pris un peu le contre-pied de Donald Trump.
En fait, le gouvernement canadien a tout simplement indiqué le fait que, peu importe votre nationalité, vous êtes les bienvenus au Canada dans la mesure où vous rencontrez les critères d'admission. À savoir s'il va aller plus loin, s'il va prendre des décisions concrètes à cet effet, ce n'est pas encore fait. Donc, on verra. La semaine risque d'être remplie de nouvelles à cet effet de la part de leurs voisins du Nord, plus particulièrement nous ici au Canada.
C'était Jean-Philippe Brunet, avocat spécialisé sur les questions de l'immigration. Il était joint à Montréal par Claire Morin-Gibourg. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Nous voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à M. Brown pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Jean-Roger Bion, un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.